l'écriture, une émission présentée par le pasteur Elios Mikel.
Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous multiplient la grâce et la paix. Très heureux de vous retrouver à l'antenne. Merci pour votre fidélité à l'écoute de FM Évangile 66. Et un grand merci aussi, tout particulièrement, à toutes celles et ceux qui nous apportent leur soutien par leurs prières, leurs dons et leurs témoignages. Me considérant simplement comme votre serviteur, je reste de ce fait à votre service. Vous pouvez me joindre par téléphone au numéro régulièrement rappelé par nos techniciennes. Ce jour, nous parlerons d'une journée mémorable. Mon souhait et ma prière à Dieu, c'est qu'il en soit de même pour vous aujourd'hui. Que ce jour soit un jour où certains d'entre vous auront rencontré Jésus, un jour où d'autres auront découvert une promesse qui leur est destinée et ainsi encouragés, ont demandé au Seigneur son accomplissement. Cette journée mémorable dont nous parlons est relatée dans l'Évangile de Jean au chapitre 7. Je lis le verset 53. Là-dessus, chacun rentra chez soi. Là-dessus, chacun rentra chez soi. Cette parole, là-dessus, est comme un rideau qui tombe. Il n'y a plus rien à rajouter. Retour à la maison. Après tout ce qui a été dit, donc, entendu, au long de la journée, est-il possible de revenir chez soi comme si de rien n'était ? Bien-aimé, qu'en pensez-vous ? Nous sommes au dernier jour de la fête des tentes, Soukhot. D'une durée de 7 jours, cette fête rassemble des milliers de Juifs venus à Jérusalem assister aux cérémonies spéciales ayant lieu au Temple et y offrir les sacrifices, les offrandes prescrites dans les Écritures. Les Juifs venaient de partout, de Judée, de Galilée, mais aussi des différentes villes de la diaspora juive comme Alexandrie ou Rome. Les pèlerins qui n'avaient pas d'endroit où loger à Jérusalem érigeaient des petites cabanes dans les environs de la ville et y résidaient le temps de la fête. Une façon de joindre l'utile aux religieux. Et le dernier jour est empreint de solennité. Jésus y vient discrètement, sans se faire voir. Il sait que les chefs religieux veulent attenter à sa vie. Cependant, le temps d'offrir sa vie en sacrifice n'est pas encore venu. Des questions et des rumeurs circulent à son sujet. Où est-il ? Le verra-t-on à la fête ? Mais aussi, qui est-il ? Car tout et son contraire se disait de lui. Et voici qu'après la moitié de la semaine, Jésus monte au temple et se met à enseigner. Alors, paroles et actions vont se succéder jusqu'à la dispersion finale marquant la fin de la journée et le retour chez soi des antagonistes. La dernière confrontation est suscitée par Nicodème, ce docteur de la loi venu de nuit rencontrer Jésus. Maintenant, il commence à prendre position au grand jour. Et, lors de la crucifixion de Jésus, nous le retrouverons aux côtés de Joseph d'Arimathée, l'homme dont il est dit qu'il était disciple de Jésus, mais en secret. Arrêtons-nous sur cette divergence entre Nicodème et ses pères. Pour des motifs fallacieux, les chefs religieux cherchent à éliminer Jésus. Dans ses enseignements, Jésus a dénoncé leur hypocrisie et leur comportement orgueilleux. Il a aussi attisé leur jalousie, parce que la foule recherchait Jésus pour l'entendre et pour être guéri. Et ce dernier jour de la fête, quand Jésus intervient au temple, ordre est donné de l'arrêter, même si la décision ne fait pas l'unanimité. Et les gardes reviennent sans avoir mis la main sur lui. D'où cette question : pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Réponse : jamais personne n'a parlé comme cet homme. Oui, vraiment, jamais personne n'a parlé comme Jésus. Les griefs portés contre Jésus pour motiver son arrestation ont fondu comme neige au soleil pendant que les gardes l'entendaient parler et se disposaient à l'arrêter. Ils étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme les maîtres de la loi, mais il enseignait avec autorité. Toutefois, les chefs religieux tentent de dénouer le témoignage des gardes et de les rallier à leur point de vue. Leurs arguments sont bien légers. Je cite : est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé tromper ? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui ? Cela ressemble à une tentative de culpabilisation. Vous avez été berné, vous n'avez pas su discerner les propos mensongers, etc. Puis, l'autre argument, qui présentait les chefs comme des références de sagesse : nous qui connaissons les Écritures, nous ne sommes pas tombés dans ces filets, mais cette foule d'ignorants n'a pas la bénédiction de Dieu. Quelle arrogance et quel mépris ! Bien-aimé, il ne suffit pas d'être beau parleur pour avoir raison. Laissons ces hommes aigris à leur rumination mentale et prêtons une oreille attentive aux paroles de Jésus. Elles sont porteuses de vie et de vie éternelle, comme l'a confessé l'apôtre Pierre à l'occasion. Et Nicodème intervient et remet les choses à plat. Je le cite : notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal ? Par cette question, Nicodème fait référence à l'esprit et la lettre relatifs à la loi de Moïse. Par cette question, Nicodème dénonce une condamnation sans fondement ou, en vérité, une condamnation motivée par l'animosité, la jalousie et la rancœur. Molière, dans Les femmes savantes, reprendra cette pensée avec cette parole, je cite : qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, et le service d'autrui n'est pas un héritage. Martine, acte 2, scène 5. Cet état d'esprit perdure. Bien-aimé, vous êtes peut-être aussi victime d'un tel comportement. Au psaume 12 et verset 6, version Tob, David exalte le Seigneur en ces termes, je cite : devant l'oppression des humbles et la plainte des pauvres, maintenant je me lève, dit le Seigneur, je mets en lieu sûr celui sur qui l'on crache. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui justifie ses enfants. Alors, dans l'adversité, patiente, car Dieu interviendra en ta faveur comme il s'y engage. Après la page musicale, nous mettrons le focus sur une des paroles entendues par les gardes et qui les a démotivés pour arrêter Jésus.
Somebody's knocking at your door. Somebody's knocking at your door. Somebody's knocking at your door.
Somebody's knocking at your door. Knocks like Jesus. Somebody's knocking at your door. Friend, somebody's knocking at your door. Oh, sinner, why don't you answer? Somebody's knocking at your door. Knocks like Jesus.
Somebody's knocking at your door.
Knocks like Jesus.
Somebody's knocking at your door.
Oh, sinner, why don't you answer? Somebody's knocking at your door.
Voici ce que les gardes ont entendu, et ils n'ont pas été les seuls à l'entendre. Aujourd'hui, bien-aimés, prêtez une oreille attentive, car cette parole nous concerne aussi. Nous allons voir pourquoi. Je cite Jésus. Jean chapitre 7, verset 37. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Si quelqu'un a soif, soif de la vie de Dieu, des choses spirituelles, de ce qui désaltère l'âme, alors qu'il vienne à moi, dit Jésus. Il se présente comme la source d'eau vive qui va générer l'abondance spirituelle. Comment ne pas penser à cet instant précis au propos que Jésus a tenu à la femme samaritaine rencontrée au bord du puits de Jacob. Je cite Jean chapitre 4, verset 10. « Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et au verset 13, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ces paroles ont suscité l'intérêt de la femme qui a répondu « Donne-moi cette eau ». Notons bien en premier la condition requise pour être désaltéré. Si quelqu'un a soif, alors qu'il fasse la démarche, qu'il vienne à moi, et là, qu'il boive. Le deuxième point sur lequel je veux attirer votre attention est la précision donnée par Jésus. Je cite « Comme dit l'Écriture ». Question : cette comparaison porte-t-elle sur la manière dont les fleuves d'eau vive vont jaillir ou bien sur la manière dont il faut croire en Jésus? Certaines versions ont rendu le propos sous cette forme. Je cite « Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront du plus profond de son être. » La comparaison porte sur la manière de croire en Jésus. Et que lisons-nous dans les Écritures? Nous y lisons entre autres le témoignage de Jean le Baptiste. Je le cite. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et encore, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Maintenant, j'attire votre attention sur le verset 39 du chapitre 7 de Jean. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. L'évangéliste, qui rapporte les paroles de Jésus prononcées en ce dernier jour de la fête, précise dans quel cadre se place cette, je dirais, invitation-promesse. Notons bien, ceux qui croient doivent recevoir l'Esprit de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, il y a eu un premier accomplissement. L'apôtre Pierre expliquant à la foule ceci. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Jésus a été élevé à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Après l'ascension de Jésus, le temps était venu pour que le Saint-Esprit promis soit répandu. La bonne nouvelle, et c'est en cela que je vous ai demandé une oreille attentive, c'est que l'invitation lancée par Jésus dans cette journée mémorable est toujours d'actualité. Ceux qui croient en Jésus rappellent comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché et celui qui baptise du Saint-Esprit, ceux qui croient ainsi doivent recevoir l'Esprit. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, rencontrant un groupe de disciples à Éphèse, leur a demandé ceci. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et au verset 6, il est précisé ceci. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Le livre des Actes des Apôtres montre que la portée de cette parole de Jésus est allée au-delà du seul jour de la Pentecôte. Dans la maison du capitaine de l'armée romaine nommé Corneille, il s'est produit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 44 à 46. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Oui, même sur les non-juifs. En fait, sur tous ceux qui croient, tout simplement. Qui est-il ? C'était la grande question qui circulait en catimini au sujet de Jésus pendant la fête. Les avis contradictoires, les bons trains. C'est un homme de bien, disent les uns. Non, disent les autres, il égare les gens. Bien-aimés, vous, que dites-vous ? Heureux ceux qui peuvent dire, il est mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Un certain jour, Jésus posera la question à ses proches. Matthieu chapitre 16, verset 13 et suivant. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Réponse. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Alors Jésus leur demande directement. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Car l'important, ce n'est pas ce que pensent les autres, mais ce que je pense personnellement. Et Simon-Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Extraordinaire confession de foi. Jésus souligne qu'une telle confession de foi est le fait d'une révélation divine. Sans cette révélation, pas de conversion réelle. Ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Puis Jésus précise « Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église ». Plusieurs versions françaises traduisent « cette pierre » par « rocher » ou « roc ». La version catalane dit, je cite, « Tu espere, y sobre aqueste pedra, edificare la meua iglesia ». La version en castillan dit, je cite, « Tu eres Pedro, y sobre esta roca edificare mi iglesia ». Une de mes filles m'a offert un Nouveau Testament anglais-japonais. Je lis la partie en anglais. « You are Peter, and on this rock I will build my church ». Que nous dit le texte original écrit en grec ? S'il vous plaît, pardonnez ma prononciation, car hormis mon prénom, je ne connais pas cette langue. Toutefois, il est aisé de se procurer le texte afin de vérifier le fondement des écrits. Assuré de votre indulgence pour ce qui est de la prononciation, je cite « Suei Petros, kai epitaute, te Petra, oikodomo mesomuten ecclesian ». Le prénom de l'apôtre que Jésus a surnommé Cephas lors de leur première rencontre signifie Pierre, caillou, et non roc ou rocher. Je lis Jean, chapitre 1, verset 42, Bible français courant. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils, le fils de Jean, on t'appellera Cephas. » Ce nom signifie Pierre. Dans le texte grec, c'est donc Pétros. Et c'est le mot « Petra » qui désigne le roc sur lequel l'Église va être fondée. Après la page musicale, nous parlerons d'une autre journée mémorable, en fait, exceptionnelle et unique. Restez avec nous.
Lorsque viendra mon heure, vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon.
cette autre journée mémorable, dont je veux parler maintenant, a été marquée par la crucifixion de Jésus. Là encore, le rideau est tombé quand tous sont rentrés à la maison. Et là encore, la perception de l'événement n'a pas été la même pour chacun. Ceux qui se trouvaient en foule près de la croix étaient venus assister à un spectacle. En voyant ce qui était arrivé, ils sont repartis en se frappant la poitrine de tristesse. Luc chapitre 23, verset 48, Bible français courant. Ils sont passés à côté de l'événement. Même si la condamnation de Jésus était injuste, elle ne doit pas nous apitoyer sur son sort, car Jésus l'a souligné. Sa vie, personne ne pouvait la lui prendre. Il l'a donnée de lui-même. Nous avons plutôt à nous lamenter sur notre condition de pécheur, de rebelle contre Dieu. Lorsque Jésus montait vers le lieu du supplice, des femmes pleuraient et se lamentaient à cause de lui. Alors Jésus leur a dit, je cite, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à mon sujet, pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Oui, c'est bien sur nous et sur notre péché que nous avons à pleurer. » Cela s'appelle la repentance. Les larmes et la tristesse, la conviction de péché qui nous y amène, sont suivies d'une grande paix et d'une grande joie. C'est celle du salut. Car à ce moment-là, je reçois dans mon cœur le témoignage divin que je suis pardonné et sauvé. L'Évangile nous dit que le ciel pavoise quand un pécheur se repent et reçoit le salut de son âme. En marge de la foule, quelques personnes observent ce qui se passe comme pour s'informer. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Elle voit Joseph d'Arimathée, aidé de Nicodème, descendre le corps de Jésus, l'envelopper dans un drap de lin et le déposer dans un tombeau taillé dans la roche. Alors elles retournent en ville, avec pour but préparer les huiles et les parfums pour le corps. Et après le sabbat, elles reviennent et trouvent le tombeau vide et deux hommes aux vêtements étincelants qui leur annoncent que Jésus est ressuscité, et elles ont été les premières à annoncer la bonne nouvelle. Près de la croix, il y a l'officier romain et les soldats qui ont exécuté la sentence, en quelque sorte aux premières loges, bien placées pour entendre les sept paroles que Jésus prononce sur la croix. Ces sept paroles ont fait l'objet d'une précédente émission. Le texte et le replay sont disponibles sur le site web de la radio, onglet « Émission », auteur Elios Michel, mardi à 10h. Et voici. Jésus expire après avoir dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Alors, la terre tremble, les rochers se fendent, les tombeaux s'ouvrent et les corps de plusieurs croyants qui étaient morts reviennent à la vie. À la vue du tremblement de terre et de ce qui vient d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus sont saisis d'une grande frayeur et disent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Ce jour-là, l'abaissement de Jésus a été total, car on l'a mis au rang des malfaiteurs. Mais c'était avec son entier consentement. Obéissant au dessein de salut de Dieu pour les hommes, Jésus a donné sa vie pour expier nos péchés. Et comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce jour-là, deux brigands sont crucifiés aux côtés de Jésus. Et l'un d'eux, après avoir fait choruse avec son complice, réagit et prend conscience que le condamné qui meurt à côté de lui est le roi attendu. D'où cette parole de foi adressée à Jésus. Je cite « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Réponse immédiate de Jésus. Je cite « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » La justice des hommes l'a condamné, comme il le reconnaît à juste titre. Mais la foi en Jésus lui fait saisir la vie éternelle. Oui, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Bien-aimé, ce pourrait être toi en ce jour. Et alors, ce jour sera mémorable dans ta vie. Bien-aimé, impossible de terminer cette émission sans rappeler que, 3 jours après sa mort, au matin de Pâques, Jésus est ressuscité. Non seulement la tombe était vide, mais pendant 40 jours, Jésus va se montrer aux siens, leur donnant ainsi plusieurs preuves de sa résurrection. C'est là le gage que notre foi n'est pas vaine. Je cite un dernier texte de l'Écriture pour aider ceux qui doivent faire la démarche du brigand. Hébreux chapitre 7, verset 25. Par conséquent, Jésus peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et il va revenir chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen.